Nous sommes le 19 octobre 2017 sur l'île de Maui à Hawaï. La belle vie, me direz-vous, mais il fait vraiment pas très chaud. C'est la nuit et nous sommes à 3052 mètres d'altitude dans l'observatoire Haleakala. L'astronome canadien Robert Verrick observe le ciel. Il est à la recherche d'astéroïdes et de comètes qui n'auraient jamais été vus et qui pourraient peut-être un jour représenter une menace pour la Terre. Et cette nuit-là, Verrick aperçoit quelque chose, un petit point qui bouge au loin. Il n'est pas très grand et ses dimensions exactes sont difficiles à évaluer, mais il semblerait qu'il fait quelques centaines de mètres de long et quelques dizaines de mètres de large. Il a un peu la forme d'une baguette. Il est gros, cet objet. S'il filait vers la Terre, il serait dangereux. Mais il n'est pas une menace, car il s'éloigne. Il s'éloigne vite, trop vite. Trop vite pour rester dans le système solaire. Trop vite même pour venir du système solaire. Cet objet que Robert Verrick vient d'apercevoir n'est pas né ici. Il vient d'une autre étoile. C'est le premier visiteur interstellaire jamais détecté par l'humanité. Il a été appelé 1I Oumuamua. 1 parce que c'est le premier, I pour interstellaire et Oumuamua pour lui donner un nom. Cela signifie éclaireur ou messager en hawaïen. Depuis, deux autres voyageurs interstellaires ont été détectés. Un 2 ans plus tard, en 2019, et l'autre cet été, le 1er juillet dernier. Alors il est difficile de savoir de quoi ces objets sont faits, mais ce qu'ils prouvent, c'est que dans notre univers, des échanges existent entre les étoiles et entre les mondes aussi. Et c'est ce qui nous amène à la question du jour que nous allons explorer avec mes trois invités. Se peut-il qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre, autour du Soleil? Et se peut-il que les astéroïdes et les comètes aient joué un rôle dans son histoire? Pour en parler, voici mes trois invités.
Bonjour, je suis Caroline Fraissinet, je suis chercheuse CNRS au laboratoire LATMOS, qui est le laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale à Guyancourt, en région parisienne. Et mes travaux de recherche concernent la matière organique dans le système solaire, donc je m'intéresse à la chimie des corps qui se trouvent dans le système solaire, les planètes, les satellites, par extrapolation, la recherche de traces de vie.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Gounel, je suis professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et responsable de la collection de météorites du Muséum. Je suis astrophysicien, je travaille donc sur les météorites et je cherche à comprendre à l'aide des météorites comment s'est formé le Soleil et comment sont formées les planètes. Et ma météorite préférée est une météorite qui s'appelle Orgueil, bien nommée, parce qu'elle est tombée en 1864 dans un petit village à proximité de Montauban. Et c'est une météorite très particulière, qui a une composition chimique très proche de celle du Soleil, et dont on a montré que peut-être elle provenait d'une comète.
Et bonjour, je m'appelle Jeanne Adette, je suis musicienne. Voilà, moi je chante dans la vie, j'écris des chansons, et ça fait à peu près 2 jours et demi que je me pose la question de savoir où est-ce que j'habite dans cet univers. Et en fait, cette question me fait un bien fou. Elle me permet de relativiser tout un tas de trucs de ce monde qui me rend un peu zinzin. Et le plus petit je me sens, le mieux je me trouve. Donc voilà, si on trouvait des extraterrestres demain, eh bien, je serais ravie, moi, personnellement, parce que tout ce qui me permet de relativiser mon humanité notre place dans ce monde me permet de vivre un peu mieux.
Eh bien, Jeanne Adette, Mathieu Gounel, Caroline Fraissinet, merci beaucoup d'être là. Merci et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct et en public depuis la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous partons à la recherche de la vie dans le système solaire.
Big Bang, Christophe Galfard.
Il n'y a pas si longtemps que ça, nos ancêtres étaient persuadés que la Terre était au centre de l'univers et que nous, les humains, avions une place spéciale dans le royaume du vivant, que nous étions, en gros, les protégés des dieux. Bon, ça fait maintenant quelques temps que nous savons que nous sommes au centre de rien du tout et que nous ne sommes pas si spéciaux que ça. Mais pour l'instant, la Terre a toujours une particularité. Elle est l'unique planète connue dans l'univers à être habitée. Pourtant, la Terre n'est pas la seule planète à exister. Rien qu'autour du Soleil, il y en a 7 autres. Et il y a des lunes, la nôtre déjà, qu'on appelle la lune avec un grand L, mais il y a aussi celle de Jupiter qui en a au moins 95 et celle de Saturne qui en a au moins 274. Ça doit commencer à vous faire relativiser un petit peu, Jeanne Haddad. Et Caroline Fraissinet, vous qui êtes chercheuse et qui cherchez de la vie dans l'espace, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir de la vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire ?
Alors déjà, je vais remettre les choses à leur place, je ne cherche pas directement la vie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les traces de chimie. Et justement, puisque la vie, c'est une sorte de chimie complexe et qu'on a trouvé des molécules chimiques un petit peu partout dans le système solaire et même dans le milieu interstellaire d'où proviennent ces fameux visiteurs dont vous avez parlé en introduction, eh ben, on peut penser que cette chimie a pu évoluer à différents endroits, de manière différente, pour former justement des traces de vie. Et donc, un de mes endroits préférés dans le système solaire, c'est une de ces fameuses lunes de Saturne, ces nombreuses lunes de Saturne que vous avez évoquées, qui s'appelle Encelade, qui est une toute petite lune. Vraiment, elle fait 500 km de diamètre. 500 km, c'est une distance Paris-Lyon et c'est le diamètre d'un des satellites de Saturne. Mais ce satellite a une particularité, c'est qu'il a énormément d'eau. D'eau sous forme solide, une croûte de glace déjà à l'extérieur, mais également d'eau sous forme liquide. Et ça, c'est quelque chose qui a été découvert il y a quelques dizaines d'années seulement, que de l'eau pouvait être sous forme liquide ailleurs qu'en surface des planètes ou des satellites. Et donc ce satellite Encelade, il a cette croûte de glace qui pourrait faire peut-être une dizaine de kilomètres d'épaisseur, et puis en dessous, il a de l'eau liquide, un océan global qui englobe tout le satellite. Il y aurait peut-être deux fois plus d'eau liquide sur ce satellite que sur Terre. C'est énorme en termes de quantité pour un satellite qui, je le rappelle, fait 500 km de diamètre, vraiment tout petit. Et dans cette eau liquide, il peut se produire beaucoup de réactions chimiques. Puisqu'on a de la chimie, on a de l'eau liquide, donc il peut se produire des réactions. On peut aboutir peut-être à des formes de vie. On n'a aucune idée de comment la vie est apparue sur Terre. On connaît à peu près les conditions qui sont au moins nécessaires pour que la vie puisse apparaître. On n'est pas celles qui sont suffisantes. On ne sait pas comment on est passé de la chimie sur Terre à de la biologie sur Terre. On pense que ça a pu se faire dans de l'eau liquide, avec des réactions chimiques, des molécules, des minéraux, dans de l'eau liquide, protégée, etc. Et donc, quand on transpose ça à Encelade, ce fameux petit satellite de Saturne, on peut se dire, si les mêmes conditions existent sur ce satellite, peut-être que la vie est également apparue. Et donc, c'est idée, en tout cas, c'est découverte que l'eau liquide peut exister même à des distances où on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait de l'eau liquide dans un passé relativement proche. Le fait qu'on trouve des molécules chimiques un petit peu partout dans le système solaire et même dans le milieu interstellaire par des observations. Mais on se rend compte que les conditions pour que la vie puisse exister ailleurs sont réunies. Mais étant donné qu'on ne connaît pas exactement le passage de la chimie à la biologie, c'est difficile de dire est-ce que ça a pu se passer. Et donc c'est pour ça qu'on va aller rechercher des traces de chimie complexe ailleurs, dans le système solaire notamment, pour essayer de voir si la vie a pu apparaître dans d'autres conditions que celles qui se sont passées sur Terre.
Je comprends que ce soit votre endroit préféré dans le système solaire pour plein de raisons. Déjà, on pourrait éventuellement aller pêcher là-bas un jour, ça pourrait être sympa. Mais il y a une autre raison qui est assez amusante, c'est que lorsque on a commencé à se poser la question de savoir si la vie pouvait exister sur une autre planète ou dans un autre lieu dans l'espace, une des premières choses qu'on a recherchées, c'est ce que vous disiez, c'est de l'eau liquide. Et pendant extrêmement longtemps, on a essayé de trouver de l'eau liquide en surface de certains mondes. Et là, il y a une zone autour des étoiles qui... C'est un gros mot. Mais justement, ça va rebondir sur ce que vous disiez là, j'imagine. Il y avait une zone dans l'espace qu'en anglais, on appelle Goldilocks Zone, qui veut dire la zone boucle d'or du personnage du conte pour enfants qui a besoin que son bouillon, que sa soupe soit à la bonne température. Une zone qui n'est ni trop loin ni trop proche d'une étoile où la température serait a priori bonne pour que l'eau soit liquide en surface. Et ce que vous êtes en train de dire là, c'est que cette limite qu'on s'était donnée pendant extrêmement longtemps, elle a volé en éclats par la découverte d'eau liquide, certes pas en surface, mais dans des endroits qui sont beaucoup plus reculés et qui n'ont même jamais accès à la lumière du soleil. Mathieu Gounel, vous qui êtes spécialiste des météorites et ce genre de choses, est-ce que vous imaginez qu'une vie extraterrestre puisse exister autour de la Terre ?
Oui, certainement. Je pense que c'est tout à fait possible qu'elle existe. Comme Caroline l'a dit, ce qui est important, c'est d'avoir des conditions chimiques. Il faut aussi une source d'énergie, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Et je pense aussi qu'il faut du temps. Je crois que la Terre est quand même un endroit assez favorable pour l'émergence de la vie. C'est pas par hasard que nous sommes ici et que nous en parlons, parce que c'est une planète qui est géologiquement active depuis très très longtemps. Donc je ne sais pas en cela dans quelle mesure il y a encore une activité très importante, si celle-ci existe depuis le début du système solaire. Si on imagine que les réactions prébiotiques, les réactions chimiques prébiotiques ont eu besoin de se répéter pour qu'à un moment elles aboutissent à quelque chose qu'on appellerait la vie, il a certainement fallu beaucoup de temps, beaucoup d'essais d'une certaine façon pour que cela arrive. Donc ce facteur temps, me semble-t-il, en plus de l'eau, des molécules organiques et de l'énergie est très important.
Alors je donne souvent des conférences grand public sur la vie extraterrestre et je vois très bien dans les salles au début, dans les yeux des gens qui sont présents, qu'en gros une grosse partie est complètement terrifiée à l'idée que des aliens puissent exister et l'autre partie est tellement frustrée qu'ils soient pas encore là que c'est palpable. On aimerait qu'ils soient là. Jeanne Hadet, vous êtes dans quel camp par rapport à ça?
Mais je fais pas partie des enfants qui ont trippé complètement là-dessus dans leurs jeunes années. C'est vraiment pas une idée qui m'habite quotidiennement, mais non, moi je suis plutôt confiante parce que l'humain est pas non plus complètement génial, donc on peut peut-être faire mieux. Quoi.
Vous espérez que les aliens soient un petit peu meilleurs que nous?
C'est possible. Enfin, s'ils doivent être à forme humaine, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, mais ils peuvent aussi être autre chose. Quand vous regardez le système solaire, on peut rester sur Terre et essayer, avec nos télescopes, de voir des choses. Mais vous, Caroline Frayssinet, lorsque vous voulez explorer la chimie potentiellement prébiotique ou biologique, éventuellement, du système solaire, vous faites comment?
Eh ben, on est obligé d'aller sur place parce que depuis la Terre, on peut voir plein de choses, mais on peut pas aller gratter le sol d'une planète et voir la chimie et la complexité de la chimie qui s'y est développée ou qui s'y développe aujourd'hui. Et donc, une des parties de mon travail, c'est de conceptualiser, de construire des instruments spatiaux à mettre à bord de sondes qui vont partir explorer ce qu'on appelle in situ, c'est-à-dire sur place, les corps du système solaire. Donc, les corps d'intérêt pour la chimie. Encore une fois, c'est la chimie qui va nous intéresser en premier lieu. La biologie, c'est une question bonus à laquelle on va essayer de répondre. Mais c'est vraiment de comprendre comment la chimie évolue dans les différents environnements qui est la question essentielle. Et donc, les différents corps qui nous intéressent, ce sont par exemple des corps comme Mars sur Mars, c'est un peu particulier parce que c'est pas Mars aujourd'hui qui nous intéresse, c'est Mars du passé. Mais Mars du passé et Mars aujourd'hui, c'est un petit peu similaire dans le sens où Mars, elle s'est un petit peu figée dans le temps, il y a quelques milliards d'années, et qu'aujourd'hui, quand on gratte du sol martien, on analyse une Mars d'il y a 3,5 milliards d'années. Et ce qui nous intéresse, c'est Mars il y a 3,5 milliards d'années où les conditions étaient assez similaires entre la Terre et Mars. Il y avait de l'eau liquide sur Mars à cette époque, il y avait une atmosphère, il y avait les conditions réunies pour que la vie puisse se développer. Ce qu'on appelle des conditions d'habitabilité. Donc ces conditions dont Mathieu parlait, avec une source d'énergie, avec de l'eau liquide, des molécules organiques en tant que briques du vivant, et puis également des conditions physico-chimiques qui sont relativement clémentes et stables dans le temps. Donc on a quand même gros package de conditions qui sont nécessaires. Et donc, ces conditions sur Mars étaient réunies dans le passé. Mais le passé de Mars, on peut l'analyser aujourd'hui. Et donc, on envoie des sondes pour regarder. Et un peu plus loin dans le système solaire, et ben on a justement ces satellites de Saturne, de Jupiter qui nous intéressent. Alors Saturne, Jupiter nous intéressent beaucoup moins parce que ce sont des géantes gazeuses sur lesquelles la chimie va être un petit peu moins complexe pour se développer. Et surtout, on peut pas aller se poser sur les corps pour aller les observer. Par contre, leurs satellites ont un intérêt vraiment énorme dans la communauté exobiologique. Notamment Encelade, dont on a parlé, donc j'y reviendrai pas, mais Europe, un satellite de Jupiter, qui est de la même composition qu'Encelade, une croûte de glace, un océan, des réactions chimiques qui se passent dans l'océan, peut-être plein de choses, et peut-être de la vie, du coup. Et également Titan. Titan, c'est un satellite de Saturne. Alors, c'est le plus gros satellite de Saturne. C'est le deuxième plus gros satellite du système solaire.
Satellite qui veut dire lune, ouais. Hein, pour les gens aussi.
C'est ça, lune. Et en fait, c'est presque une planète. D'ailleurs, des fois, on dit planète, même dans une conférence grand public, je fais cet amalgame. C'est un satellite qui se prend vraiment pour une planète, Titan.
C'est quoi la différence entre une planète et une lune, du coup?
Alors, la planète...
Sorry.
Non, c'est très bien, c'est parfait.
La planète, elle va orbiter autour du Soleil, ça va être son point central, alors que le satellite va orbiter autour d'une planète. Et donc Titan orbite autour de Saturne, le système entier orbite autour du Soleil, et Titan est plus gros que la planète Mercure. Donc comme quoi, la définition, elle est vraiment autour de l'orbite et pas du tout autour de la nature du corps. Et c'est pour ça qu'on va faire cet amalgame de planètes satellites. Et donc Titan, elle est vraiment fabuleuse. C'est un satellite de glace qui a une atmosphère qui est plus dense que celle de la Terre. Ce qui est très rare dans le système solaire, d'avoir cette atmosphère qui est 4 fois plus dense que celle de la Terre, qui a des liquides en surface. Et donc là, c'est le seul autre corps du système solaire qui a des liquides en surface.
Pardon,
avec la Terre. Oui.
Une atmosphère dense, du coup, c'est quoi ?
Une atmosphère dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de molécules qui sont dans l'atmosphère. Donc en l'occurrence, sur Titan, c'est du diazote, comme dans sur notre Terre. La 80% de l'atmosphère qu'on respire, c'est du diazote.
Peut-être que je peux dire quelque chose à ce propos, une seconde, qui est, même par rapport à Mars, dont on vient de parler à l'instant, on peut se demander pourquoi on considère qu'elle était vivable à une époque et plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, il y a plein de raisons pour cela, mais l'une d'entre elles a à voir avec son atmosphère. L'atmosphère, c'est le gaz qui est autour d'une planète. Pour la Terre, c'est ce qu'on respire. Et la densité, c'est un peu ce que vous allez sentir sur votre main si vous sortez la main quand vous êtes en voiture et que vous sortez la main par la fenêtre. Vous allez sentir une résistance. Bon, ben, cette résistance-là, elle peut être beaucoup plus importante, c'est le cas sur Titan, ou beaucoup plus faible, c'est le cas aujourd'hui sur Mars, qui a perdu une partie de son atmosphère parce qu'elle a été soufflée par des vents du Soleil. Elle n'est pas assez grosse pour la conserver autour d'elle-même.
Donc ça veut dire que sur Titan, on n'a pas besoin de sortir la main de la voiture pour sentir la résistance.
Vous pouvez faire un petit mouvement, vous allez sentir l'air encore plus que sur Terre.
Même mieux que ça, sur Titan, il est plus facile de voler avec un engin qu'on va envoyer que de rouler. Parce que rouler, donc il y a des obstacles. Voler dans l'atmosphère de Titan, qui a une atmosphère dense, c'est quelque chose qui est facile, entre guillemets, parce qu'on est quand même à 1 milliard de kilomètres de la Terre. Mais même l'humain, si on imagine, on fait abstraction du froid, il fait moins 180 degrés en surface, on fait abstraction du fait qu'il n'y ait pas d'oxygène, on fait abstraction de tout ça, on s'attache des ailes, comme les pionniers de l'aviation sur Terre qui essayaient de sauter d'une falaise avec des ailes et essayaient de battre des ailes et qui s'écrasaient lamentablement en bas de la falaise. Sur Titan, ça fonctionnerait. Parce qu'il y a suffisamment de molécules d'air au sol pour qu'on puisse s'appuyer sur ces molécules et voler.
Génial.
En plus de ça, Titan est plus petite que la Terre, donc la densité est plus faible, la gravité est plus faible. Pas la densité, pardon, la gravité est plus faible. Et donc, c'est comme quand on voit les astronautes sur la Lune, quand ils font des bonds sans effort qui sont beaucoup plus hauts que qu'on peut faire sur Terre. Et donc sur Titan, on a à peu près cette même gravité que sur la Lune. Donc quand on combine
les deux
combinés, ça fait que voler, c'est facile. Génial.
Okay. Vous disiez qu'il y avait des liquides à la surface de Titan.
J'en étais au liquide.
Évidemment, mais on va peut-être rassurer ou pas, je ne sais pas, les auditeurs, les auditrices, ce n'est pas de l'eau.
Exactement. Et donc justement, voilà, c'était, j'attendais une petite question de paradoxe. Mais on avait dit que l'eau à 1 milliard de kilomètres en surface n'existait pas. Exactement. Donc l'eau liquide, moins 180 degrés, elle n'existe pas en surface, malgré toute la salinité qu'elle puisse avoir. Et donc, ce qu'on a en surface de Titan en tant que liquide, ce sont des hydrocarbures. C'est du méthane et de l'éthane liquide. Et il y a ce cycle d'hydrocarbures qui est à l'instar du cycle de l'eau sur Terre, où il y a des évaporations. Donc il y a des lacs qui sont grands. Le plus grand, il fait jusqu'à 1000 km de longueur, avec plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et donc, on a ces lacs avec peut-être des marées sur les lacs, de l'évaporation, des nuages de méthane qui ensuite pleuvent, font des rivières, laissent des traces de rivières au sol et se rejettent dans les lacs. Vraiment le même cycle que l'eau sur Terre. Donc c'est très intéressant, c'est le seul autre corps du système solaire qui a ces liquides en surface.
J'ai une petite question quand même pour vous. Quand vous envoyez des sondes comme ça à l'autre bout du système solaire, comment est-ce que vous les testez? Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'elles vont fonctionner là-bas comment on fait?
Alors, c'est une grande question. On essaye de reproduire les conditions pour pouvoir les tester, notamment la Dragonfly. Pardon, j'en ai pas parlé. C'est tellement dans ma tête.
On parle d'un petit objet qui vole, j'ai l'impression.
On parle de Dragonfly, qui est une mission extraordinaire qui va partir en 2028 pour Titan. Il y a 6 ans et demi arrivé sur Titan. C'est un drone géant qui fait 4 mètres d'envergure, presque une tonne. lune et qui va avoir des instruments pour aller explorer la surface de Titan, mais qui va pouvoir voler en fait. C'est un double quadcoptère, il a 8 hélices. Il va pouvoir voler de site en site, ça va être quelque chose de vraiment d'incroyable. Et la France participe beaucoup à la construction de systèmes pour cette mission, pour aller explorer la chimie.
Et comment vous le testez du coup, ce Dragonfly?
Et donc, comment on teste ce Dragonfly qui va aller voler à 1 milliard de kilomètres de la Terre? Et ben dans des chambres spéciales, des chambres climatiques qui vont reproduire les conditions de la planète qu'on va aller explorer. Alors malheureusement, il y a quelque chose qui est impossible à reproduire, c'est la gravité. Parce qu'on est ici en gravité terrestre et on ne peut pas aller tester une gravité Titan dans une chambre climatique. Donc on fait des approximations qui sont assez approximatives. Hein, et donc typiquement, pour même Mars, qui a une gravité plus faible que la Terre, quand on teste le roulage des rovers, des robots martiens sur Mars, on va faire des robots sur Terre qui ont qui sont plus légers que le robot réel et qui va représenter vraiment le poids qu'aura le robot sur Mars. Donc on va diviser par, je sais pas, 3 ou 4 la masse de ce robot pour le tester sur Terre.
Et bien comme on est à la fois dans de l'aquatique et dans l'espace, je vous propose d'écouter un morceau de la bande originale de La Vie Aquatique de Wes Anderson.
Quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul.
C'était la reprise de Starman de David Bowie par Céu Georges. Et c'est Big Bang toujours avec nos invités aujourd'hui. Jeanne Haddad, la musicienne, Caroline Fraissinet, chercheuse au CNRS qui envoie des sondes dans l'espace, et Mathieu Gounel qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle.
Big Bang. Christophe Galfard sur France Inter.
Alors à sa naissance, une étoile ne naît en général pas toute seule. Il y a d'autres objets qui restent autour d'elle, qui sont par exemple les planètes dont nous venons de parler, les lunes. Mais il y a aussi beaucoup de petits cailloux qui restent derrière, qu'on appelle des astéroïdes, et plus loin un peu des comètes. Ces objets qui sont souvent des reliques de l'enfance de notre système solaire et qui traînent un petit peu partout peuvent, de temps en temps, tomber sur des mondes et devenir ce qu'on appelle des météorites. Mathieu Gounel, vous êtes spécialiste des météorites, donc j'imagine qu'il y en a plein qui sont déjà tombés sur Terre. Qu'est-ce que... vous nous disiez tout à l'heure que votre météorite préférée était particulier.
Donc, je parlais de la météorite d'Orgueil, effectivement, qui est tombée en 1864 à Montauban. Pour vous donner une idée, il y a à peu près quelques milliers, 5000 météorites de 1 kilo qui tombent sur Terre chaque année. Et donc, une en France, tous les 2 ans, quelque chose comme ça, évidemment, sont des chiffres approximatifs, des chiffres d'astrophysiciens, un facteur 2 près au moins. Et cette météorite d'Orgueil, parmi toutes les météorites, et celle qui a le mieux, une de celles qui a le mieux préservé les conditions physico-chimiques qui existaient au début de notre système solaire. Donc, comme vous l'avez dit, les météorites sont des fragments d'astéroïdes ou de comètes qui sont un petit peu les reliques de notre formation. C'est un peu comme quand vous construisez une maison à la fin du chantier. Il vous reste quelques câbles, des tuiles, un sac de ciment. Et à partir de ça, vous essayez de comprendre si, une fois que la maison a été détruite, vous essayez de comprendre comment la maison a été construite. Eh bien, c'est ça, les astéroïdes et les comètes. C'est pour ça que ça nous intéresse. À partir de ces reliques, on essaye de comprendre comment les planètes se sont formées. Et donc cette météorite d'Orgueil, parmi toutes les météorites, elle a la particularité à la fois d'avoir une composition chimique très proche de celle du Soleil, à l'exception de l'hydrogène, qui est très abondant évidemment dans le Soleil et assez rare dans les météorites, mais pour tous les autres éléments, ça coïncide presque parfaitement. Et aussi peut-être de venir d'une comète, puisqu'on a été capable il y a quelques années avec un collègue tchèque de reconstituer son orbite dans le système solaire et de montrer qu'elle venait des régions externes du système solaire, au-delà de Jupiter, les régions de résidence des comètes.
Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre où on en trouve plus que d'autres de météorites ?
Oui, on en trouve beaucoup. Dans les déserts, non qu'il en tombe davantage. Il tombe autant de météorites dans la Creuse ou au-dessus de la forêt de Brocéliande que dans le Sahara ou dans le désert d'Atacama au Chili, mais elles s'y préservent beaucoup moins longtemps et sont plus difficiles à trouver. Donc on va, de façon privilégiée, chercher de façon systématique des météorites dans les déserts. Et donc, avec Jérôme Gatacheca du CEREJ, on va presque chaque année dans le désert d'Atacama au Chili. C'est un désert très très sec, le désert le plus aride sur Terre, chercher des météorites dans ce désert d'Atacama.
Vous pouvez nous décrire une expédition pareille ?
L'expédition est assez simple.
C'est en hauteur, le désert d'Atacama.
C'est en hauteur, donc on travaille à peu près à 1500 mètres d'altitude, sur un haut plateau d'une certaine façon, donc dans une région extrêmement aride. Il y a certains endroits du désert où il n'a pas plu depuis des dizaines d'années. Et on se met en ligne, séparés de 8 mètres les uns des autres, et on passe la journée à chercher, à regarder par terre.
C'est une battue, quoi.
C'est une battue, exactement. c'est exactement ça. C'est tout à fait une battue, et à essayer de trouver des météorites. Donc je vous en ai apporté une.
Vous pouvez nous la décrire, vous l'avez devant vous.
Donc celle-ci, c'est une météorite typique d'Atacama, qui est relativement rouillée. C'est comme ça d'ailleurs qu'on les reconnaît, parce qu'une des propriétés des météorites, c'est d'être riche en fer métallique. Sur Terre, le fer n'existe pas à l'état métallique. Il existe seulement sous forme de minerais, sous forme oxydée, au contraire des météorites. Mais quand les météorites tombent sur Terre, ce fer s'oxyde. Et donc, les météorites rouillent. Et elles prennent cette espèce de teinte, un petit peu chocolat, un peu comme une boîte de conserve rouillée, en définitive. Et c'est aussi comme ça qu'on les reconnaît dans le désert d'Atacama.
Et donc, pardon, c'est pas une pierre, quoi ?
C'est une pierre. C'est une pierre, mais qui contient... Vous pouvez la toucher.
Oui,
Et c'est une pierre qui contient quelques pourcents de fer métallique. C'est quelques pourcents de fer métallique à rouiller et à donner cette couleur chocolat. Plus on est nombreux, plus on trouve de météorites. La dernière expédition, on était seulement 4, mais on a trouvé tout de même 150 météorites, pour vous donner une idée, en travaillant 2 semaines. Et en plus, c'est une expédition un petit peu particulière, puisque on était 2 scientifiques, Jérôme Gatacheca et moi-même, et j'ai amené avec moi 2 artistes, Alexandra Roussopoulos, une peintre, Julien Magre, un photographe, qui ont à la fois cherché des météorites, c'était l'idée, qui s'imprègnent de l'état d'esprit que l'on doit avoir quand on cherche les météorites, un état d'esprit assez flottant. Si on est trop concentré, on ne les trouve pas. Si on n'est pas assez concentré, on ne les trouve pas non plus. Il faut être un petit peu dans l'état que j'ai comparé dans un livre à l'état, les coudes flottantes de la psychanalyse. Et donc les artistes sont venus et ont trouvé beaucoup de météorites. Et puis, pour Julien, pris des photos, pour Alexandra, peint. Et on a conçu un livre qui s'appelle Un désert des météorites, qui relate un petit peu cette expérience particulière.
Donc on peut postuler pour venir chercher des
météorites. J'allais vous demander, Jeanne, si vous pouvez regarder ça.
La liste d'attente est assez longue.
De toutes les expéditions possibles, celle du désert d'Atacama semble vous plaire plus que si on vous envoyait sur une lune de Saturne.
Ah non, je suis prête. Je prends toutes les aventures, en fait, en vrai.
Bah, parfait. Ouais. Celle d'Atacama, c'est pas la plus compliquée. Vous imaginez là-haut, dans le désert, regarder, à contempler Vous imagineriez quoi en train de chercher des météorites comme ça?
Non, mais en fait, je vais faire mon pitch. J'aime beaucoup marcher, déjà.
Bravo. C'est un bon point.
La première case cochée.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc de tout ce qui me permet d'aller. Je le pense vraiment comme ça, d'aller passer du temps avec ma planète, en fait. C'est une notion qui est récente dans ma tête, justement de cet endroit où on habite et de la relation qu'on a avec, en fait, et de cette intimité même, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand je vais marcher, j'ai l'impression de passer du temps avec ma planète. Et donc c'est vrai que d'aller dans des endroits qui sont tellement hallucinant, parce que bon, j'ai juste vu des photos, mais ça a l'air quand même complètement dingue, ce désert d'Atacama. C'est vrai que c'est hyper inspirant et ça donne vraiment très très envie d'aller
chercher partir
des en aventure, quoi.
D'aller faire une battue aux météorites là-bas. J'adore regarder ce qui se trouve évidemment dans l'espace. J'ai un esprit scientifique qui veut se nourrir de toutes ces choses-là. Et régulièrement, on tombe sur des articles qui disent on vient de trouver un ou une météorite. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'on peut dire les deux, donc ce n'est pas une erreur de dire un météorite. On vient de trouver une météorite, disons, qui contient quelque chose qui pourrait ressembler à du vivant. Alors, c'est régulier, ce genre de publication. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Gounel? Est-ce que c'est déjà arrivé que quelque chose ressemble vraiment et peut-être soit du vivant provenant d'ailleurs?
Non, jamais. Il y a eu plusieurs fausses alertes, en particulier avec cette météorite d'Orgueil qui a été beaucoup étudiée. Dans les années 60, un groupe américain a publié un article annonçant avoir découvert des éléments organisés dans la météorite d'Orgueil, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Ça a été rapidement démenti. On a compris que c'était plutôt des contaminations du pollen qui s'était glissé dans la météorite au moment de sa chute sur Terre. Et puis, il y a eu aussi évidemment une annonce très spectaculaire à propos d'une météorite martienne dans les années 90, quand je commençais à travailler sur les météorites. On n'a jamais trouvé de vie dans les météorites, que les choses soient très claires. Ensuite, on trouve effectivement de façon récurrente des molécules organiques complexes, des acides aminés, des sucres ou des bases azotées. Et les journalistes, avec la complicité des scientifiques, s'en font l'écho de façon parfois un peu tapageuse, parce que ces molécules entrent dans la composition de molécules très importantes pour le vivant, comme l'ADN ou tout simplement, pour ce qui est des acides aminés, les protéines. Cependant, il y a très très loin de ces molécules, aussi complexes soient-elles, à la vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est la grande question scientifique, c'est l'émergence de la vie. C'est-à-dire comment on passe de molécules organiques, mais inertes, aussi complexes soient-elles, à du vivant capable de se reproduire et de se perpétuer. Et ça, on ne sait pas du tout. Qu'on trouve ces molécules-là, c'est très intéressant. Ça veut dire tout de même qu'il y a une chimie extrêmement active, que cette chimie a lieu dans probablement beaucoup d'endroits dans l'univers. Ça, je pense que c'est quand même important de le souligner. Peut-être dans le système solaire, probablement dans le système solaire, et probablement aussi dans le milieu interstellaire, donc le milieu entre les étoiles dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire quand même qu'il peut y avoir la fabrication de molécules complexes dans l'univers, dans de nombreux sites. Cependant, de ces molécules à la vie, il y a vraiment un long chemin à faire.
Vous avez dit une météorite martienne tout à l'heure. Alors, je vais vous proposer un scénario pour expliquer comment une telle météorite a pu être étudiée sur Terre. Imaginez la Terre, Mars, etc., dans l'espace, il y a très longtemps. Et imaginez un astéroïde gigantesque venant s'écrabouiller à la surface de Mars et éjectant une quantité phénoménale de morceaux dans l'espace. Ces morceaux vont voyager pendant des dizaines de milliers d'années peut-être dans le vide interplanétaire avant de tomber sur Terre. Et ce sont ces météorites-là que vous étudiez, vous. Quand on parle de météorites martiens ou martiennes, c'est lorsqu'on en trouve sur Terre. C'est pas des morceaux de Mars qu'on est allé chercher là-bas et qu'on a ramené, parce que ça, on l'a pour l'instant jamais fait. Pour l'instant, ce sont les expériences de Caroline Frayssinet qui nous renseignent sur la composition du sol martien. Cela étant, si Mars a pu voir émerger la vie, peut-être comme sur Terre à un moment donné dans le passé, il y a quelques milliards d'années, est-ce qu'à votre avis, Caroline Frayssinet, il est complètement exclu qu'une certaine forme de vie puisse contaminer une planète provenant d'une autre planète ?
Alors déjà, je voudrais juste faire un petit fun fact, c'est que on parle de météorites martiennes sur Terre, mais en fait, avec les explorations qu'on fait avec nos robots sur Mars, on passe des fois à côté de météorites sur Mars, dont on ne connaît pas forcément la provenance. Ça peut être des météorites martiennes qui sont parties dans l'espace, revenues sur Mars, ou qui viennent d'ailleurs du système solaire, mais on trouve des météorites sur Mars avec nos explorations robotisées. Donc c'est pas du tout spécifique à la Terre, même si la Terre est plus grosse, elle va attirer un petit peu plus.
Il y a des échanges entre tous les mondes.
Il y a des échanges entre tous les mondes, en tout cas du système solaire. On l'a vu également avec les autres systèmes et donc des objets interstellaires qui viennent dans notre système solaire. Et donc pour répondre à la question, on va employer ce fameux terme dont beaucoup de gens ont entendu parler et qui est un autre gros mot de l'exobiologie, qui est la panspermie. Alors la panspermie, c'est le fait que de la vie puisse s'échanger de planète en planète, justement avec des impacts qui vont échanger des morceaux de pierre qui vont contenir de la vie et que cette vie va aller se développer sur une autre planète sur laquelle elle va atterrir. Alors panspermie, c'est très ambigu comme terme. Étymologiquement, spermie, c'est la graine, donc c'est vraiment la vie, et pan, c'est partout. Donc ça veut dire on a la vie qui se répand de partout à partout. Ce mot, finalement, il date de l'Antiquité, mais il a été remis au goût du jour par un astronome qui s'appelait Fred Hoyle dans les années 70, où il a dit « Oh là là, certaines maladies pourraient venir de météorites qui s'écrasent sur Terre, qui contiennent de l'ADN, qui s'intègrent à l'ADN humain et qui va fabriquer des nouvelles maladies. C'est pour ça qu'il y a l'émergence de nouvelles maladies sur Terre. » Donc, à partir de là, panspermie, c'est devenu un terme très complotiste. Donc, c'est quelque chose qu'on n'utilise absolument plus. Aujourd'hui, la transmission de planète en planète via des roches, c'est ce que disait Mathieu, c'est au niveau de la matière organique primitive, mais pas du tout à partir de la transmission de vie. Alors, c'est pas exclu totalement qu'on puisse imaginer que la vie est apparue sur Mars, qu'un impact géant a porté des traces de vie, enfin, de cette vie sur les roches pour l'amener sur Terre, etc. C'est pas complètement exclu, mais c'est quand même très improbable, dans le sens où les impacts, déjà, ça apporte énormément d'énergie, ça détruit beaucoup. Ensuite, ces météorites, c'est pas quelques dizaines de milliers d'années qu'elles vont passer dans l'espace interplanétaire, mais c'est quelques dizaines de millions d'années qu'elles vont passer dans cet espace. Donc la vie, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit dormante pendant ce temps-là avant de revenir sur Terre. Le crash de la météorite sur Terre, ça va être quelque chose qui va apporter énormément d'énergie également, qui va pouvoir détruire toute forme de vie qui s'y trouve. Et surtout, une vie qui s'est développée sur Mars, qui se serait développée sur Mars, se serait développée dans des conditions martiennes, qui n'est pas adaptée à des conditions terrestres. Donc, la vie terrestre n'existe que sur Terre et ne peut exister que sur Terre. La vie martienne, si elle a existé, n'aurait pu exister que sur Mars. Donc, si on amène de la vie sur une autre planète, il y a quand même très peu de chances que cette planète soit adaptée à cette forme de vie qui existe sur une autre planète. Tout ça, les uns dans les autres, font que la théorie de la panspermie est donc, bien entendu, plutôt une théorie complotiste qu'autre chose. On n'a pas le virus du SRAS qui a été apporté par une météorite.
Cela étant, si jamais c'est possible et que certains dorment pendant des millions d'années avant d'arriver sur Terre, je vous propose d'écouter la musique qu'on pourrait leur faire écouter lorsqu'ils se réveillent pour faire une Nuba Galactica ensemble. C'est avec Yeli Yeli.
Le temps efface tout.
Pendant que nous dansions avec Yeli Yeli, nous avons demandé au public de poser une question à mes invités. Jeanne Haddad, musicienne, Caroline Fraissinet, qui nous renseigne sur la composition du système solaire, et Mathieu Gounel, notre spécialiste des météorites.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Et voici la question de Laurent.
Oui, merci. Une question pour Caroline Fraissinet. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'on connaissait les conditions suffisantes à la vie. Et vous avez dit qu'on ne connaissait pas les conditions... Non, c'était l'inverse. Les conditions nécessaires à la vie et qu'on ne connaissait pas les conditions suffisantes à la vie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir le déterminer ?
Eh bien, pour pouvoir connaître les conditions suffisantes à la vie, il faudrait pouvoir recréer la vie avec un ensemble de conditions contrôlées. Et ça n'a jamais été fait. On n'est pas capable de créer la vie à partir de molécules complexes. En fait, il y a deux types d'approches qui sont envisagées, qui sont en recherche pour essayer de comprendre justement les conditions suffisantes à la vie. La première, c'est ce qu'on appelle bottom-up, donc du bas vers le haut, où on va essayer d'assembler des molécules jusqu'à ce que, pouf, ça devienne vie. On n'a jamais été capable de le faire. Et la deuxième, c'est une approche qu'on appelle le top-down, donc du haut vers le bas, où on va prendre des systèmes vivants et on va enlever de plus en plus de choses dans ces systèmes vivants jusqu'à ce que ça devienne non-vivant pour savoir le minimum requis pour faire la vie. Et donc, idéalement, les deux approches vont se toucher à un moment et c'est là où on va comprendre le minimum nécessaire pour la vie, finalement. C'est quelque chose, on n'est pas capable de savoir quelles sont les conditions suffisantes parce que c'est apparu une seule fois, ou en tout cas, peut-être pas en un épisode, mais c'est apparu à un seul endroit sur Terre et à 3,8, 3,7 milliards d'années. On n'était pas là pour savoir les conditions qui étaient présentes et celles qui étaient suffisantes. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé de vie ailleurs ou qu'on n'a pas réussi à créer la vie, on sera incapable de savoir les conditions qui sont suffisantes.
Et je vais rajouter un petit quelque chose, c'est que, évidemment, ce qu'on vient d'entendre correspond à la vie qu'on connaît. On n'a absolument aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler potentiellement une vie ailleurs dans notre univers. Et c'est pas qu'on est complètement nul, c'est que on n'a qu'un seul exemple, comme Caroline Frécina venait de le dire. On a une deuxième question. José.
Oui, bonjour. Je me pose la question, c'est peut-être une question philosophique, peut-être un peu. Est-ce que l'univers peut faire partie d'un vivant en totalité, enfin toutes les galaxies, comme elle gonfle, elle grandit, je me dis, elle grandit comme nous on pourrait grandir à l'intérieur de notre corps. Et
alors, voilà, je vais peut-être commencer à répondre à cette question pour éviter à mes invités de se casser la figure. L'idée est, on est obligé, quand on essaie de comprendre le monde qui nous entoure, de partir de certaines définitions, ou au moins de tenter de définir des choses pour distinguer différents éléments, différentes situations. Et il se trouve que la définition du vivant est extrêmement compliquée à donner. Mais il y a quelque chose qu'on estime être exclu du vivant, comme par exemple juste une pierre ou un atome lui-même, pour pas mal de raisons. Donc si on considère que notre univers tout entier est vivant, alors on ne pourrait plus faire la distinction entre rien, car tout deviendrait vivant, l'univers lui-même, ce qui est à l'intérieur, et il faudrait qu'on trouve un autre mot, quelque part, pour dire ce dont nous sommes faits et ce qu'est la recherche du vivant. Donc l'univers en soi peut être étudié, on peut essayer de voir son histoire, car on sait depuis une centaine d'années qu'il a une histoire, probablement un début, peut-être une fin, on ne sait pas trop, mais qui peuvent être des attributs d'une certaine manière du vivant, mais c'est il me semble que c'est une discipline de recherche qui est complètement différente que celle qu'on utilise pour chercher le vivant. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Oui, peut-être en disant que c'est un petit peu le danger aussi de la pensée analogique, d'une certaine façon, c'est-à-dire à force de faire des analogies, on en fait tout le temps. On peut se tromper. Il y a des mécanismes qui relèvent d'un certain domaine ou d'un certain état de la matière et qui ne sont pas applicables à d'autres. Donc il faut se méfier. Et évidemment, le vivant est quelque chose de fascinant. Donc on a tendance à l'utiliser très très souvent, implicitement, même dans la vie quotidienne, pour faire des analogies. Et il faut se méfier de ces analogies. En revanche, je défends très fortement la métaphore, qui est autre chose. Ça, c'est du travail littéraire et artistique, et je suis très, très en faveur de ça. Mais dans les raisonnements scientifiques, les analogies peuvent être parfois glissantes.
Jeanne Haddad, vous voulez poser une question ?
Mais par rapport à ce que vous disiez juste avant, Caroline, sur le bottom-up et d'en haut jusqu'en bas, à quel moment, en fait, on passe de ce qui est inerte, c'est ça l'opposé, à quel moment on définit, on dit que c'est vivant versus ce qui ne l'est pas, en fait.
C'est le parfait pour mélanger les deux questions ensemble, finalement. Et la grande question, c'est quelle est la définition de la vie ? Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas de manière universelle. Il n'y a pas de réponse universelle. Chacun
je crois qu'il y a plus
de
140 définitions qui existent
du vivant. Hein. Donc la définition du vivant n'existe pas. Donc définir si un univers est vivant, finalement, selon la définition qu'on emploie, pourquoi pas. Et puis définir à partir de quand on est passé de l'inerte au vivant, même question.
Okay. Je vous propose un petit jeu pour terminer, ce qui va devenir une tradition. C'est un peu tôt pour le dire, mais ça le deviendra peut-être. un petit jeu, c'est-à-dire que je vais vous faire écouter un son et je vais vous demander d'essayer de deviner de quoi il s'agit. Le voici. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous avez la moindre idée de ce qu'est ce petit son, je vous écoute.
Alors moi je me souviens plus trop, mais je sais qu'il y a l'enregistrement du vent martien, et donc je me demande si c'est pas un enregistrement micro du vent martien.
Pas mal, pas mal. C'est terrestre.
Ah. Est-ce que ça serait pas... Oh, allez-y hein, aussi. L'enregistrement des...
J'ai une bouilloire dans la tête, donc si tu veux, c'est...
Eh ben figurez-vous, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Comme quoi, il faut dire les choses, vous avez bien raison.
Le bruit de fond du cerveau de Donald Trump.
Non, moi, j'étais sur de l'espoir.
Ouais. Il y a des choses qui se passent. Hein. L'enregistrement des sons en grande profondeur sur la Terre.
Ah, ah.
Mais du coup, la bouilloire n'a plus rien à voir.
Eh ben si, pourtant.
Ah. Les grands fonds, les abysses.
Mais quoi donc dans les abysses?
Les sources hydrothermales.
Eh ben, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et je vous propose d'écouter Thibaut Barrère, géophysicien marin, chercheur au CNRS et au laboratoire Géo-Océan à l'Ifremer de Bresse, qui n'a pas pu être là en direct parce qu'il partait en voyage, mais qui nous a enregistré l'explication de ce qu'on vient d'entendre.
Ce que vous entendez est un son qui nous vient du fond de l'océan, à 2200 mètres sous la surface, dans l'obscurité la plus totale, le long de la dorsale volcanique Juan de Fuca dans le Pacifique. Il a été entendu et enregistré en 2005 lors d'une expédition scientifique à bord d'un navire océanographique équipé d'un robot pouvant descendre à ses profondeurs pour y installer un hydrophone, un instrument qui enregistre les sons sous l'eau. Ce son est celui d'une cheminée hydrothermale, un son provenant d'un fluide turbulent et chaud qui s'écoule et pulse hors de cheminées et édifices hydrothermaux. Ce son est aussi le premier capturé sans ambiguïté, démontrant que ces évents émettent une énergie acoustique significative qui aurait de possibles implications pour les écosystèmes vivant sur et autour de ces sources hydrothermales.
Est-ce que ça pourrait vous donner une idée, Caroline Frayssinet, qui explorait le système solaire, pour peut-être écouter les océans subsurface, sous la surface de Lune, de Jupiter ou de Saturne, pour voir s'il n'y aurait pas une activité géologique là-bas.
Mais complètement. Là, on reboucle avec les discussions initiales sur Europe et Encelade, qui ont cet océan, et on pense, avec des mesures qui ont déjà été faites, qu'à la base de cet océan, à l'interaction entre l'océan et le fond océanique sur Europe et Encelade, il y aurait des sources hydrothermales. Et ces sources hydrothermales, non seulement apportent de l'énergie, des minéraux, des molécules, plein de choses pour faire de la chimie complexe, donc peut-être de la vie, mais c'est également une des hypothèses pour le lieu d'apparition de la vie sur Terre. Et donc, on est complètement dans l'analogie entre le fond des océans terrestres et le fond des océans sur les lunes glacées de Jupiter et de Saturne.
Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être en quelques secondes, d'où viendrait l'énergie qui donnerait à ces sources hydrothermales leur activité géologique? Parce que ça peut pas être le soleil, c'est bien trop loin. J'imagine que les lunes sont trop petites pour être encore chaudes à l'intérieur.
Alors, il y aurait un petit peu d'énergie avec la radioactivité de ces lunes, surtout Europe qui est un petit peu plus grande qu'Encelade, mais l'énergie principale, elle vient d'énergie des forces de marée, puisque les orbites d'Encelade et d'Europe autour de leur planète géante sont très elliptiques, et donc les satellites vont se contracter et se dilater, ce qui va créer des forces de friction et créer des énergies monstrueuse.
Eh bien, merci beaucoup. C'était Big Bang, c'est déjà fini. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Jeanne Haddad, Mathieu Gounel, Caroline Frayssinet. Merci au public. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la technique Céline Guéribi et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux scientifiques et un nouvel invité mystère pour une émission enregistrée en public à l'Opéra de Nancy à l'occasion du festival Le Livre sur la Place. Alors il reste encore quelques places que vous pouvez réserver dès maintenant sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique.